Alors, bonjour. Moi, j'arrive avec une intervention complètement différente par rapport à ce qu'a présenté François Presti. D'abord, ben, je vais me distinguer un peu des autres parce que je n'ai pas de diapo. Donc, ça va demander peut-être un niveau d'écoute différent. Alors, pour certains, ça va être l'occasion de dormir. Pour d'autres, peut-être que ça va vous réveiller. Ben, j'espère en tous les cas que ça sera compréhensible. Alors, d'abord, je voulais remercier les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de communiquer au nom de tout le groupe sur notre initiative d'un médicament pensé comme un bien commun. Alors, nous avons fait un poster qui est à l'entrée, et je pensais qu'il y aurait plein de posters, mais bon, donc du coup, en guise de diapo, vous aurez le poster. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, reconnaît un droit à la santé et à la protection sociale. Bon, on le sait, la santé humaine est multifactorielle. Cela va des conditions de l'accès aux besoins vitaux, tels que l'eau, l'alimentation, aux conditions de travail, de logement, en passant par l'environnement et le risque d'exposition à la pollution, notamment dans les villes, et enfin l'accès aux soins de santé. Alors, le médicament fait partie des soins, et son accessibilité est une condition indispensable à la jouissance du droit à la santé. Cet objectif d'une totale accessibilité pour toutes et tous est loin d'être atteint. Des millions de personnes dans le monde meurent faute de soins ou d'accès aux médicaments, notamment à cause de leur prix. Alors, c'est l'objet de notre poster présenté à ce colloque et qui est au cœur de cette problématique de l'accès aux soins de santé. On constate effectivement, depuis plus d'une décennie, une augmentation du prix des médicaments, notamment dans les nouveaux traitements dits innovants issus des biotechnologies. Les exemples sont nombreux. En France, par exemple, le traitement d'un cancer ou d'une arthrite rhumatoïde est de 20 000 à 40 000 euros par patient, mais le traitement d'une mélanome par le Keytruda est passé à 180 000 euros par patient et par an. Ce qui fait que le montant des dépenses des médicaments contre le cancer a terriblement augmenté. Il est passé de 24 milliards en 2008 à plus de 80 milliards en 2014, ce qui fait de l'oncologie l'aire thérapeutique la plus rentable pour les industries pharmaceutiques. Il y a d'autres exemples, les deux thérapies géniques, l'une développée par Novartis, le Kymria, et l'autre par Gilead, le Yescarta, sont vendus en Europe au prix de 320, respectivement, enfin de 320 et 350 000 euros par patient. Et la palme d'or, si on peut dire, revient à une nouvelle thérapie génique développée par Novartis dans le traitement d'une maladie rare. C'est le Zolgensma qui a été approuvé par la FDA au prix de 2 millions la dose. Même s'il faut seulement une seule dose, ça fait cher du médicament.
Il est à ce prix-là en France aussi sur la liste des ATU. 1 million d'instants. Voilà.
Alors, la hausse des prix des médicaments n'est d'ailleurs pas cantonnée aux nouveaux médicaments. Il y a des molécules anciennes dont le prix a augmenté de façon spectaculaire et injustifiée. Aux États-Unis, le prix de l'insuline a plus que doublé en 15 ans. Le Lantus de Sanofi a vu son prix passer de 99 $ en 2010 lors de son lancement à plus de 269 $. En 2018, soit une hausse de 171%. Et l'Avastin est passé de 10 à 100 euros, soit une hausse de 1000%, lorsque son usage a été étendu au traitement de la dégénérescence maculaire. Voilà. Cette inflation des prix n'est pas sans conséquence pour les populations. La principale, c'est l'augmentation des inégalités d'accès aux médicaments. 11 millions de personnes meurent chaque année de maladies infectieuses, faute d'avoir accès aux médicaments essentiels. 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès aux soins de santé de base parce que ceux-ci sont trop coûteux. C'est vrai pour les pays du Sud, mais c'est également vrai pour les pays du Nord. Aux États-Unis, 30% de la population renonce aux soins. En France, 7% des patients et 18% en Grèce renoncent aux prescriptions. C'est-à-dire une fois qu'on a une ordonnance, on ne va pas à la pharmacie parce que les médicaments sont trop chers. D'autre part, ces prix exorbitants conduisent les professionnels de la santé à une hiérarchisation des malades. C'est ce qu'on a vu avec le sucrose buvir, traitement contre l'hépatite C, où seuls certains malades ayant atteint un stade de fibrose ont été admis au bénéfice du traitement, alors qu'en termes de santé publique, le traitement du plus grand nombre est essentiel afin d'arriver durablement à l'épidémie et d'éviter d'autres contaminations. Cette sélection des malades pour un accès à un traitement risque de s'étendre à d'autres indications, notamment dans le cancer, vu le prix faramineux des anticancéreux. Par ailleurs, ces prix mettent en danger notre système de solidarité. À terme, l'assurance maladie ne pourra plus faire face à cette augmentation inexorable des dépenses de santé. On assiste d'ores et déjà à de nombreuses réductions du taux de prise en charge par l'assurance maladie des dépenses de santé, réduction des budgets hospitaliers, amplification des déremboursements des médicaments et d'actes médicaux. Ces dispositions favorisent la privatisation des systèmes de santé par une augmentation du financement privé du risque maladie. Il est passé de 5%, enfin il était de 5% en 80, dans les années 80. En 2015, il était de l'ordre de 13%. Alors pourquoi les prix si élevés pour les médicaments? L'industrie pharmaceutique se justifie par des arguments plus fallacieux les uns que les autres. Elle invoque en premier le prix de la recherche et développement qui atteindrait 2 milliards de dollars. Mais elle admet de mentionner le montant des investissements publics en recherche et les crédits d'impôt dont elle bénéficie. En France, en 2019, plus de 600 millions d'euros de crédits d'impôt recherche sont alloués aux industriels privés au titre de la recherche pour la santé. Il est notoire que les frais de recherche et développement annoncés sont artificiellement gonflés par les dépenses de marketing et de lobbying réalisées pour positionner avantageusement leurs produits sur le marché. Un autre argument invoqué est que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain pour le développement de nouvelles thérapies. Dans les faits, 50 à 100% des bénéfices sont distribués aux actionnaires. En réalité, le prix est plus déterminé en fonction de ce que le malade est prêt à payer pour rester en vie que du service médical rendu, ou du coût réel de la production. On est rentré dans une logique de la monétarisation de la vie. Force est de constater que la politique de santé est dominée par les lois du marché et de la finance, que ce sont les entreprises vendeuses qui décident de façon exclusive de leurs conditions de vente, et que face à elles, les pouvoirs publics n'affirment pas suffisamment leurs exigences en termes de prix ou de santé publique. De tous les secteurs industriels, celui du médicament est de loin le plus profitable. Le chiffre d'affaires des multinationales dépasse les 1 000 milliards d'euros avec une rentabilité supérieure à 20%. Alors comment justifier ces profits exorbitants de cette industrie? Le médicament est considéré par les industries comme un bien de consommation comme les autres, dont le prix devrait être fonction de l'offre et de la demande comme n'importe quel autre business. Cette démarche a été facilitée par l'intégration du médicament aux activités commerciales de l'Organisation mondiale du commerce, ou OMC, en 1994. Ce sont les fameux accords de Marrakech, alors qu'il était jusqu'à cette date essentiellement sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Transformé en marchandise dans le traité commercial de libre-échange TAFTA, signé en juillet dernier, le médicament voisine avec les pompes à vélo et le poulet aux hormones. De plus, en 1994, l'OMC a légitimé internationalement les droits du brevet d'invention appliqué aux médicaments devenus marchandises. À chaque mise sur le marché d'un nouveau traitement est associé un brevet qui octroie à la firme détentrice, pour une période de 20 ans, une exclusivité de production et de commercialisation lui assurant un monopole. Il y a une incidence directe et forte de la réglementation des brevets sur les prix des médicaments, le brevet conférant aux entreprises une position de domination dont elles usent pour imposer leur prix de vente au gouvernement. De plus en plus souvent, des voix s'élèvent contre les abus de monopole liés au brevet. Un exemple récent, février de cette année, en Inde, Johnson & Johnson a voulu breveter la forme saline d'un antituberculeux pour protéger sa position monopolistique et vendre son produit au plus fort, retardant d'autant l'entrée du générique sur le marché, que vendu moins cher. Des activistes, soutenus par Médecins sans frontières, se sont élevés contre cette prise injustifiée de brevets, et je crois qu'ils ont obtenu gain de cause. plus récemment encore, en juillet de cette année, c'est Médecins du Monde qui s'est opposé au brevet du Kymriah pour dénoncer son caractère abusif et le prix excessif de ce traitement, véritable barrière d'accès aux soins pour toutes et tous. Donc on le voit, la santé de tous, finalité et justification initiale des laboratoires a disparu. La volonté de conquérir les marchés émergents, tels que celui de la Chine, est devenue la priorité. Les industries favorisent la production pour le profit, à l'opposé de leur vocation idéale, initiale, la santé des hommes. Ce qui signifie que, via le prix du médicament, c'est la survie de 7 milliards d'humains que détiennent entre leurs mains quelques dizaines d'hommes dont la seule légitimité est d'être à la tête de multinationales. Ils se sont enrichis grâce aux cotisations sociales payées par des millions de cotisants, malades et bien portants. À aucun moment, ceux-ci ne sont admis à participer aux décisions qui les concernent, tant en premier lieu, puisqu'il y va de leur survie. Le médicament ne veut pas être un bien marchand, il doit être libre de droits exclusifs. Il est temps que nous nous approprions les médicaments et produits de santé, largement financés par les contribuables. Ils doivent être pensés comme un bien commun et accessible au plus grand nombre. Ils ne peuvent pas être source de profit. Nous devons changer de paradigme. L'industrie pharmaceutique doit revenir à ce qu'elle doit être, une industrie au service de la santé publique. Donc les besoins de santé de la population humaine prévalent sur les spéculations financières. Le médicament doit sortir des règles de l'OMC. La notion de propriété intellectuelle appliquée au brevet des médicaments doit être revue. Pour que soient pris en compte les intérêts humains majeurs en matière de santé, mobiliserons-nous pour que soit instauré un regard démocratique des patients, des citoyens et citoyennes sur la politique du médicament, ce qui pourrait se réaliser par la mise en place de partenariats entre organismes publics et sociétés civiles, des citoyens, citoyennes, élus ou non, centrés sur les exigences sociales animées par celles et ceux qui s'inscrivent dans le mouvement de la société. C'est possible, c'est soutenu par une forte volonté politique. Je vous remercie pour votre attention. Au nom de notre groupe et des centaines de co-signataires du manifeste que vous trouverez sur le site www.medicaments-bien.covid.org et que nous vous invitons à signer. Je vous remercie.